Bonjour à tous et bonjour Sarah.
Bonjour Stéphanie et bonjour et bienvenue à notre spécialiste Olivier Ribaud, pépiniériste à Queuves.
Durant l'hiver, on ne voit personne dans les jardins, alors on se dit qu'il ne se passe rien du tout. Et pourtant c'est faux, c'est maintenant que nos cerveaux s'activent pour réfléchir à toutes les envies folles qu'on réalisera au printemps. Les jardinières sont là pour répondre à toutes vos questions et pour vous aider à planifier au mieux les travaux que nous ferons à la belle saison.
Qui mieux que vous saura vous nous expliquer votre problème de jardin ou tout simplement vos futurs projets à réaliser? Les conseils de notre professionnel Olivier Ribaud, vous pouvez les obtenir en appelant le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et pour les plus timides, on ne vous prive pas du savoir d'Olivier. Il vous suffit de nous envoyer votre question par écrit, soit par SMS au 939 en tapant le mot « jardin » et un espace avant votre question, soit par formulaire internet sous l'onglet « Émissions, questions aux jardinières ». Donnez-nous plein de détails et on se charge du reste.
Et ben c'est parti pour les jardinières pour la première émission de février.
Les jardinières. Sarah et Stéphanie.
Olivier, bonjour, comment ça va?
Bonjour, ça va bien.
Alors, première question, Colinette se demande si c'est vrai qu'il faut séparer les pelures d'orange du reste du compost, car elles prennent plus de temps à se décomposer.
Alors oui, en effet, ça prend beaucoup plus de temps que certains autres déchets organiques, mais bien sûr, elle peut les séparer, ou au pire, elle pourrait les couper en petits morceaux avant de les introduire dans son compost, si elle n'en a pas beaucoup. Mais ça prend beaucoup de temps. Elles resteront en forme plusieurs années si elle ne les broie pas.
Ah, carrément plusieurs années?
Oui.
Et vous conseilleriez de séparer les pelures d'orange du reste du compost? De me faire deux composts en quelque sorte?
Mais faire un compost qu'avec des oranges, ça prendra peut-être de la place et puis ça, elle n'en aura pas beaucoup. Mais c'est possible. Ou alors les couper en morceaux ou les broyer.
Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ne doivent pas rester avec le reste du compost parce qu'ils me prennent plus de temps à part les pelures d'orange?
Mais il y a toujours les fameuses coquilles d'œufs que beaucoup utilisent quand même dans le compost. Alors c'est pareil, on peut les broyer, on peut les écraser avant de les mettre dans son compost. Il faudra savoir qu'un compost, pour qu'il se décompose le plus rapidement possible, en 2 ou 3 ans pour faire un bon terreau de compost, il faudrait justement le brasser tous les ans ou 2 fois par an pour que les parties qui sont à l'intérieur du compost se retrouvent sur les extérieurs et vice-versa, pour que la vie du compost se travaille rapidement puis que ça fasse décomposer tous ces éléments le plus vite possible pour pouvoir utiliser son terreau.
Merci Olivier. On a une auditrice qui nous a écrit à propos de ces orchidées. Mes orchidées sont attaquées par des tout petits insectes noirs. Je pense que c'est des thrips. Que dois-je faire pour les traiter ?
Alors le problème des orchidées, c'est souvent, hein, on les retrouve souvent dans nos émissions. Le thrips n'est pas un insecte noir. Le thrips est un petit insecte piqueur qui est très très fin. Un professionnel peut le voir à l'œil nu, mais sinon c'est difficile à voir. Donc je pense pas que c'est un thrips s'il est noir. Je pense plutôt que c'est... Parce qu'on a souvent eu le cas d'avoir des cochenilles farineuses, donc des cochenilles blanches, sur les orchidées. Mais il existe une race de cochenilles qui est noire aussi, qui forme des petites cloques noires. Donc c'est aussi une cochenille, mais d'une autre famille. Et ça, on peut les combattre, ben, comme on a déjà vu plusieurs fois, avec un produit qui va tuer ces bêtes, qu'on va trouver sur le commerce sans problème, ou alors carrément les enlever sur des grands... Parce que quand on a des orchidées à grandes feuilles lisses, on peut les enlever avec un chiffon humide ou une éponge en pressant légèrement, et puis ça va les enlever, les décoller de la feuille de l'orchidée. Alors si elle les voit à l'œil, c'est pas un thrips, parce que le thrips est trop petit et puis c'est un insecte piqueur, donc on peut pas le voir, il est invisible.
Et qu'est-ce que donc pour vous c'est la cochenille noire?
C'est la cochenille noire, ouais.
Quelles autres maladies peuvent avoir les orchidées?
Alors on voit essentiellement ça sur une orchidée, les cochenilles. Après, on peut avoir, pour ceux qui mettent trop d'humidité, des arrosages trop fréquents, on peut avoir un botrytisme, donc une pourriture, une moisissure sur les feuilles ou sur les fleurs, mais c'est moins courant. L'essentiel, c'est les cochenilles. Et puis l'autre problème qu'on voit beaucoup sur les orchidées, c'est un manque de nourriture. C'est quand même une plante qui a besoin d'éléments pour que son feuillage reste beau vert et puis qu'elle puisse pousser correctement. Donc c'est plus à ça qu'il faut veiller, à les nourrir quand même régulièrement.
C'est pas tous les jours facile hein, de s'occuper d'une orchidée.
Non.
Une autre question de Laure de Courtetel qui nous dit « Je viens d'acheter une maison avec un jardin dans lequel il y a un pommier qui n'a pas été taillé depuis 4 ans. Jusqu'à quel point je peux le tailler sans qu'il en souffre ?»
Alors souffrir, il ne va pas souffrir, il ne va pas gronder parce qu'on y coupera des branches. Mais c'est clair qu'un pommier, c'est facile à rattraper après plusieurs années qu'il n'a pas été taillé. Donc autant qu'elle fasse une taille sévère, drastique, qu'elle peut revenir sur... des charpentières assez fort, c'est difficile à expliquer sans voir l'arbre, mais elle peut enlever beaucoup de branches. Souvent, s'il y a eu beaucoup de rejets, elle peut les couper sans problème et puis revenir assez petit pour y redonner une forme avec son axe principal, ses 4 charpentes ou 5 charpentes. Et puis, si elle travaille très fort, elle aura plus beaucoup de branches à fruits, ça c'est clair, mais c'est l'année prochaine, donc elle va faire ça cet hiver, et c'est l'année prochaine qu'elle va refaire une sélection pour regarder des branches à fruits. Pas suite à une taille forte, le pommier va faire beaucoup de rejets. Alors c'est la deuxième année qu'il faut sélectionner ces rejets, ces pousses de l'année, pour en garder une partie, pour les garder pour faire des branches à fruits.
Merci Olivier, vous êtes avec nous jusqu'à 8h et jusqu'à 8h, vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute et pour discuter avec Olivier Ribaud de tous vos problèmes de jardinage. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS au 939 en tapant d'abord le mot jardin en début de message, puis un espace avant votre question. Et il y a aussi le formulaire internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
7h, 8h. Les jardinières.
À 7h20, Nadia a une question piquante pour vous, Olivier Ribaud. Elle nous vient de Courtetel. Bonjour, Nadia.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. J'ai une question concernant un cactus. L'été dernier, en vacances, il y a une feuille de cactus qui était tombée. C'est un cactus qui donne des figues de Barbarie.
Oui.
Et puis, je l'ai récupéré, arrivé à la maison, je l'ai mis dans terre.
Oui.
Je l'ai mis au soleil. Et puis, pour cet hiver, je l'ai pris à l'intérieur et je l'ai posé à même le sol, parce qu'on a du chauffage au sol.
Oui.
Et puis là, il fait une grande pousse.
Oui.
Qui fait à peu près 20 cm de hauteur. Et maintenant, ma question est comment je dois le soigner? Je dois y mettre de l'eau, de l'engrais ou rien du tout?
Alors, de l'eau un petit peu, c'est... comme tous les autres cactus, vous allez l'arroser, je dirais, une fois par mois ou en tout cas pas beaucoup plus. Mais vous allez l'arroser assez fortement. C'est-à-dire qu'il faut un peu reproduire son milieu naturel quand il pleut dans un désert ou quand il fait dans des endroits très chauds. Il pleut fortement, donc vous le mouillez beaucoup. Puis après, vous le laissez sécher, la terre venir sèche, en tout cas jusqu'à 3 semaines, 1 mois. Vous contrôlez que... Le terreau soit sec pour le arroser à nouveau. Et puis cette pousse, c'est normal, elle va... C'est que vous y avez produit son été. Vous l'aviez dehors jusqu'à l'automne, il faisait pas très chaud, il est resté sans pousser, puis maintenant vous l'avez amené à l'intérieur, puis il fait très chaud, vous l'avez mis sur le sol, donc chauffage sol, tout ça. Alors il a fait une pousse, ça c'est normal. Ce qu'il faut faire, c'est la laisser. Et puis, éventuellement, si elle vient trop longue, vous pouvez la recouper. Et c'est là que ça va brancher pour faire des nouvelles pousses de chaque côté de là où vous aurez coupé.
Mais alors, je la coupe à quelle hauteur? Au milieu?
Par moitié, voilà, au milieu. Ouais. Et puis, cette pousse que vous coupez, vous la laissez sécher pendant une semaine, comme ça, à l'air. Et puis après, vous pouvez la repiquer. Elle va repousser de nouveau. Vous pouvez la remettre avec, dans le même pot ou dans un autre. C'est le principe d'un cactus, mais vous la laissez sécher avant de la replanter. Et voilà.
D'accord.
Au oui. moment de...
Et puis...
Allez-y, Nadia, pardon.
Pardon. Et puis, la pousse, enfin, le cactus en lui-même, ça fera d'autres pousses derrière.
Exactement. Quand vous aurez coupé, le fait de le couper, c'est comme si on le pinçait, il va refaire des nouvelles pousses. Il va s'étoffer. Il aura plusieurs pousses plutôt que d'en avoir qu'une seule. Voilà.
D'accord.
Oui.
Et puis je pourrais déjà le couper maintenant ou je dois attendre quand même qu'il... Parce que là, on voit que la pousse est quand même très, très jeune. Elle est encore toute... Elle est vert clair.
Voilà, tout à fait. Non, alors il faudrait attendre encore, je dirais, jusqu'à avril. Mais cette pousse va venir plus dure. Elle va venir plus, justement, verte foncée, plus adulte, si on veut. Alors, il faudrait attendre ce moment-là pour que, quand elle sera bien dure, pour la couper. Maintenant, c'est un peu tôt, c'est jeune.
Okay, oui, parfait.
Ça marche.
Et puis, il faut mettre de l'engrais.
Alors, vous en aviez mis dans votre terreau quand vous l'aviez planté?
Pas du tout.
Pas du
tout. Pris de la terre, c'était même pas du terreau, en fait.
Oui.
J'ai pris de la terre du jardin, j'ai mis dedans. J'aurais jamais pensé que ça pousse.
Oui,
et
si,
puis, c'est là que je me rends compte que ça va bien.
Alors maintenant, vous pouvez, les fois que vous allez l'arroser, vous pouvez mettre un engrais liquide pour l'arroser avec justement des éléments nutritifs. Et ça, vous le faites justement une fois par mois. Donc, c'est suffisant pour un cactus avec cet engrais en liquide dans l'eau. Voilà.
C'est un engrais spécifique ou c'est de l'engrais de plantes?
Alors, ça existe, les engrais cactus spécifiques dans le commerce, mais après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez utiliser l'engrais que vous utilisez pour les plantes vertes, pour les plantes d'appartement, c'est égal, ça va très très bien. Voilà.
Parfait. Alors, je vous remercie.
Ben, merci beaucoup.
Merci Nadia.
Bonne journée.
Merci,
bonne
pareil.
Journée.
J'avais encore une petite question sur les... Au revoir, belle journée Nadia. Une petite question sur les cactus, justement. Combien de temps ça peut vivre un cactus, Olivier?
Oula, c'est indéfini. Un cactus... peut vivre éternellement. Il faut savoir que le cactus, il se reproduit très facilement dans ces pays chauds, dans les déserts, dans les endroits arides, parce qu'il se casse à un moment donné. Donc il va se casser, il va retomber sur le sol, qu'il soit debout, couché ou n'importe, il va refaire des racines à l'endroit où il est en contact avec le sol, et puis après, la nouvelle pousse va repartir vers donc le haut pour refaire des nouveaux cactus. C'est comme ça que ça se reproduit au naturel, donc c'est facile à reproduire un cactus.
Oui, non, c'est vraiment une plante qui résiste au climat très aride.
Voilà, il y en a quelques-uns qui sont différents, qui se reproduisent par, vous en avez déjà sûrement vu, ou tu en as sûrement quelques-uns, des petits qui font des petits bébés en dessous chaque fois. Alors ça, c'est cactus qui se multiplient comme ça, qu'on peut diviser pour en remettre dans des nouveaux pots, mais sinon le cactus, c'est quelque chose qui est solide et qui peut durer très très longtemps.
On dit que ça peut la plante du paresseux, parce qu'il ne faut pas beaucoup s'en occuper.
Voilà, exactement.
Merci en tout cas Olivier d'être avec nous jusqu'à 8h, évidemment vous qui nous écoutez. Il y a plusieurs moyens pour poser vos questions.
Il y a le téléphone, vous pouvez nous appeler comme Nadia au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Il y a aussi le SMS, vous tapez d'abord le mot jardin, un espace, puis votre question et vous nous envoyez le tout au 939. Vous pouvez aussi nous envoyer un formulaire que vous trouvez sur nos sites sous l'onglet émissions questions aux jardinières.
Et de retour dans les jardinières avec Olivier Ribaud. Olivier Ribaud qui est toujours avec nous jusqu'à 8h.
Vous pouvez poser vos questions par téléphone grâce au numéro 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute et vous pouvez discuter directement avec Olivier. C'est ce qu'a fait Nadia, elle nous a parlé tout à l'heure de son cactus et elle nous a dit, enfin vous nous êtes arrivé à la conclusion qu'il fallait le couper, mais comment on peut manipuler un cactus quand on doit le couper sans se piquer? Est-ce que vous avez des astuces pour nous Olivier?
Alors oui, tout à fait, c'est la bonne question parce que souvent on met des gants. Et en fait, selon les cactus, les aiguilles, les épines vont transpercer le gant. Donc pour manipuler les cactus, vous allez prendre du papier journal, vous le froissez un peu, et puis c'est avec ça que vous allez le mettre contre le cactus, puis vous pouvez l'empoigner sans problème. C'est le journal qui fera l'isolation entre vos mains et puis le cactus.
Voilà. Donc, le petit truc d'Olivier.
Voilà. Et plus les aiguilles sont grandes, plus vous mettez de journal. Et puis si c'est un tout petit, avec une ou deux feuilles froissées, vous pouvez l'empoigner par la tête ou par les aiguilles, sans problème.
On y pensera la prochaine fois qu'on va empoigner un cactus. C'est vrai que c'est toujours un bon petit truc. Vous nous envoyez vos SMS donc au 939. Vous faites comme Nelly de Queuve qui nous a posé la question suivante. Mon gazon n'est pas beau. Qu'est-ce que je peux faire, Olivier?
Alors, je pense que je vois le gazon de Nelly de Queuve, parce que c'est vrai qu'il n'est pas beau, mais ça fait un certain temps qu'il n'est pas beau. C'est un peu tôt en saison pour le réaménager. Il faut encore attendre, je dirais, début mars, fin février, début mars, pour lui faire un apport d'engrais. On a les engrais de printemps qu'on pourra commencer de mettre. Donc, il faut attendre les beaux jours, les jours qui vont revenir plus chauds. La terre va se réchauffer aussi. Donc, à cette période-là, début mars, mi-mars, on va faire le premier apport d'engrais pour les gazons, pour les faire revenir verts. Et puis qu'après, ben, un mois après, mi-avril, on va commencer les premières tontes. Il faut savoir qu'un gazon, pour qu'il soit joli et puis qu'on ait toujours une belle pelouse, il faudrait le tondre le plus régulièrement possible. Après, pendant la saison de printemps et d'été, c'est ce qui fait que quand on a maintenant les tondeuses automatiques, on voit beaucoup des beaux gazons parce qu'ils sont toujours tondus. Donc l'herbe n'a pas le temps de pousser très haute. Donc il faut faudrait qu'elle le fauche plus souvent après avoir mis un engrais de printemps et puis éventuellement encore une fois un engrais en été.
Et on parle de scarificateur aussi au printemps. Qu'est-ce que ça apporte au gazon ?
Alors le scarificateur, c'est un travail, la scarification qu'on va faire justement au printemps, à partir du, quand il commencera de faire un peu sec, à partir du mois de mars-avril, quand le gazon commence de repousser gentiment. Le but de la scarification, c'est d'aérer le gazon, donc de lui enlever tout le mulch, donc les vieilles tiges d'herbe sèche qui étaient là de l'année passée et de l'hiver. Donc c'est vraiment pour l'aérer. On utilise beaucoup le scarificateur certaines fois pour enlever la mousse, mais ce n'est pas son rôle, le scarificateur. Le scarificateur sert à aérer un gazon, enlever le mulch, le feutre, tout ce qui, les parties sèches qui sont à l'intérieur du gazon. Donc on va faire ça, le ramasser au râteau comme il faut, passer une tondeuse pour tout égaliser, et après faire un apport d'engrais de nouveau pour le printemps, pour le faire repousser.
Du gazon, on passe aux tuyas. Mes tuyas ont 7 ans et ils sèchent tous au milieu. Ils deviennent bruns, perdent des bouts de branches. Est-ce que c'est dû à la sécheresse ou ils sont attaqués par un parasite ?
Alors, vous avez donné une partie de la réponse. La sécheresse de l'été passé, donc 2017, n'a pas été bonne pour tous les tuyas, qu'ils soient petits, grands, même des anciennes haies de tuyas. Et on voit les conséquences maintenant. Donc l'été passé, il a fait très chaud, très sec, longtemps. Et il faut savoir qu'un tuya, il a un système de racines qui va entre, je dirais, 20, 30, jusqu'à 40 cm de profond. Les plus vieux, un petit peu plus, ils peuvent descendre. Mais ce n'est pas une plante comme un arbre ligneux qui va faire des grosses racines et descendre à 80 cm, 1 mètre de profond. Donc aussitôt qu'on a des longues périodes de sécheresse, de sec, le tuya souffre rapidement. Et sur le moment, on ne le voit pas. C'est l'année suivante, le printemps et l'été suivant, qui va faire toutes ces parties sèches. Donc ce qui est sec au milieu, c'est normal. Mais s'il a eu soif l'année d'avant, il en fait beaucoup plus. Donc sur des jeunes haies, tu y as maintenant, voici 2-3 ans qu'on a des étés vraiment secs, pas très humides. Donc on installe un petit tuyau d'arrosage en dessous, un goutte à goutte, qui économise de l'eau, parce qu'on en mettra beaucoup moins que si on les arrose à la main. Et cette eau aura le temps de pénétrer et descendre jusqu'au niveau des racines. Parce que si vous arrosez une haie de tuya à la main, l'eau va déborder de partout, elle va rester en surface, vous allez mouiller les 5-8 cm de surface, puis le tuya va rester avec ses racines dans cette partie-là. Et puis aussitôt qu'il refait sec, mais il a encore plus soif. Donc il vaut mieux l'arroser avec un système d'arrosage goutte à goutte, le laisser un bon moment pour que l'eau descende jusqu'à 30 cm. Et après, vous pouvez échelonner vos arrosages de 15 jours, 3 semaines sans problème.
Ce système de goutte à goutte, c'est pour récupérer maintenant le tuya qui a séché durant l'été dernier ou c'est durant toute l'année, pendant l'été justement, qu'il faut laisser ce système pour empêcher qu'on arrive à ce résultat-là ?
Alors maintenant, avec les grandes pluies qu'on a eues, le sol est mouillé assez profondément pour ce tuya, donc ça maintenant c'est bon. Mais ce serait bien de le mettre pour cet été si on a de nouveau une période sèche de plus de 3 semaines, voire un mois. Eh bien, la terre va ressécher sur ces 40 cm et c'est là qu'il faudra l'arroser avec ce tuyau goutte à goutte. Mais le sec qui est tombé maintenant, le tuya va repousser cette année, va refaire du vert sur les extérieurs, mais le sec de l'intérieur ne va pas revenir. Par contre, après, la personne a dit qu'elle avait des bouts secs, des branches sèches. Alors ça peut arriver sur des tuyas qui se sont fait affaiblir justement par une longue période de sécheresse. On a une petite mouche maintenant qui vole et qui vient piquer les tuyas. Et puis ça vous fait un morceau de 20-30 cm dans la haie, tout d'un coup que c'est sec. Alors ça c'est parce que la mouche a pondu un ver et ce ver va à l'intérieur du tuya. Et ça on ne peut pas le combattre parce qu'on ne sait pas où ils sont. Donc on peut juste le voir quand le tuyard vient sec, c'est l'année suivante. On peut juste couper ces morceaux secs, les détruire, les brûler ou les mettre dans une poubelle pour les débarrasser. Mais on n'arrive pas à combattre ça.
Merci beaucoup Olivier Ribaud. Je rappelle que vous êtes en notre compagnie jusqu'à 8h. Vous qui nous écoutez, vous avez plusieurs moyens de nous poser vos questions. Tout d'abord par téléphone au 0901 70 20 20 au prix de 36 centimes la minute. Par SMS également, vous écrivez le mot jardin suivi d'un espace et de votre question que vous nous envoyez au 939. Il y a également le formulaire qui se trouve sur nos sites internet sous l'onglet « Questions aux jardinières » tout simplement.
Les jardinières.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos questions par SMS au 939. Et il y a une question pour vous, Olivier Ribaud. Comment se débarrasser des moucherons dans la terre des plantes d'appartement ?
Alors, ces petits moucherons sont apparus en principe quand vous avez un terreau qui est trop humide. Si les plantes ont été arrosées trop abondamment et trop souvent, ces petits moucherons viennent comme sur un fruit qui est en train de passer ou pourrir. Donc c'est quasiment les mêmes moucherons. Vous pouvez utiliser un produit bien sûr, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez juste arrêter les arrosages, laisser votre plante, le terreau de cette plante venir un peu sec, le gratter, donc le mélanger un peu à la surface pour casser un peu la croûte de cette terre sur le pot, et ça va l'aérer, le faire sécher plus rapidement, et puis ces petits moucherons vont mourir et disparaître tout seuls parce qu'ils ont vraiment une durée de vie qui est très courte, de 1-2 jours. Donc ne l'arrosez pas trop, laissez sécher la terre, la brasser, et après si vraiment il reste, là on peut utiliser un produit, un insecticide, le même qu'on utilise pour des pucerons ou des autres bêtes, qu'on va se débarrasser, mais c'est pas nécessaire. Moi je pense que ça suffira de le laisser sécher le terreau.
Est-ce qu'ils peuvent être nuisibles, ces moucherons, ou ils ne nous dérangent pas tant que ça ?
Non, ils ne dérangent pas pour la plante, en tout cas, ils vont juste déranger parce qu'il y en a un peu partout, et puis quand ils vont mourir, ils vont tomber, ils vont être sur le sol, mais ils ne sont pas nuisibles pour la plante, du tout.
Laurent de Fleurier nous a posé la question suivante. J'avais un noyer dans mon jardin et j'aimerais y planter autre chose, là où il y avait sa place. On m'a dit que toutes les plantes ne pouvaient pas pousser sous un noyer. Alors déjà, est-ce que c'est vrai ? Pourquoi ? Et voilà, on a besoin de vos explications.
Alors d'après, comme il dit, il l'a enlevé, donc il va pas, sa nouvelle plante ne va pas pousser en dessous, donc automatiquement. Mais c'est vrai qu'un noyer, c'est un arbre qui aime bien être seul parce que ses feuilles, quand il se décompose, fournissent une certaine acidité, amertume dans le sol, acidité. Donc certaines plantes ne s'adaptent pas à ça. Mais dans l'occurrence, s'il l'a enlevé, même s'il reste un peu des racines, il va enlever toutes les feuilles mortes qui restera de ce noyer. Il peut planter, à mon avis, quasi tout. C'est juste la souche qui va rester encore un moment à se décomposer, ou bien alors il devra la broyer. Mais sinon, il peut planter sans problème tout arbuste, à fleurs, ou c'est égal. Mais c'était un problème s'il laisse le noyer. S'il laisse le noyer, il faut rester après avec des essences, enfin, style des noisetiers, des choses comme ça. Il pourrait replanter dessous, mais s'il l'a enlevé, il peut mettre n'importe quoi.
Sylvia aimerait planter du bambou, mais elle a peur qu'il ne devienne trop envahissant. Comment éviter cela ?
Alors le bambou, bien sûr, il y a plusieurs variétés de bambou. Donc il y a des bambous qui vont faire des touffes, qui vont rester en touffes. Ça s'appellera souvent c'est la variété, les fragésia. Mais si vous prenez des bambous qui sont traçants, donc qui font des rhizomes, et puis qui vont vraiment se multiplier, c'est les phyllostachys, là c'est un problème. Il faut vraiment installer une barrière anti-rhizome dans le sol, c'est une bande en plastique qu'on trouve dans le commerce, qu'on va faire un pourtour, donc une fosse, pour mettre son bambou là-dedans. Il faut vraiment faire attention aussi de ne pas le mettre trop profond, que le bambou, quand il fait ses racines à ras du sol, ne passe pas par-dessus. Donc il faut le laisser dépasser, on doit le voir dépasser et contrôler que justement il n'aille pas à l'extérieur de cet enclos donc en plastique qu'on va mettre dans le sol pour le garder dans ce volume-là. Parce qu'une fois que ça commence de partir partout, il y en aura vraiment partout. Mais ça, c'est dangereux.
On parle de bambou, donc d'extérieur, et on avait une question de Martine de Fontenay qui nous demandait, est-ce qu'un bambou peut vivre à l'intérieur ?
Non, alors c'est une plante qui est faite pour avoir des cycles, des saisons. C'est pas une plante d'appartement, donc automatiquement, si elle est à l'intérieur, elle aura toujours chaud. aussi bien en été qu'en hiver. Et elle va se dessécher, elle va perdre toutes ses feuilles. Au pire, elle va pousser rapidement, elle va faire des longues pousses vertes claires et après elle va sécher. Donc non, c'est pas bon. Il faut qu'elle ait une période de froid d'hiver. Pas trop, mais cet hiver, par exemple, les bambous sont restés jolis parce qu'il n'a pas fait froid. Mais il faut avoir ces périodes de repos d'hiver pour qu'ils restent en végétation. Sinon, ils sèchent complètement.
Si c'est trop tard et qu'on s'est fait envahir par son bambou, comment on peut lutter contre cet envahisseur ?
Le meilleur moyen pour enlever des bambous qui sont allés un peu partout, c'est mécanique. Donc c'est à la main, c'est les arracher, chercher, suivre les racines jusqu'au bout. C'est le seul moyen. Il n'y a pas de produit et ce n'est pas la peine d'essayer de mettre des produits. Alors là, c'est dommage parce que ça va faire des pollutions pour rien. Le seul moyen, c'est d'arracher, chercher, arracher, ramasser le maximum des racines pour après les mettre dans un compost où ça viendra broyer et que ce sera dans un cycle de broyage pour être éliminé ou carrément être mis dans une pour être incinéré. Mais le seul moyen, c'est d'arracher à la main et puis de suivre toutes ces racines jusqu'au bout. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est le seul moyen.
Et on a une question de Jordan de Keuve hein, qui pose une question sur la grande camomille. Il aimerait cultiver de la grande camomille justement comme plante médicinale. Est-ce que vous avez des petites pistes pour lui ? Est-ce que c'est conseillé ou pas ? Est-ce que c'est possible ?
Oui, c'est possible. La camomille, c'est une plante annuelle, la camomille. C'est pas une plante vivace, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'elle se ressème très facilement. Donc, si vous avez eu une fois de la camomille, en automne, vous la laissez fleurir, vous laissez faire les fleurs, sécher. Le printemps, souvent, il en repousse. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est pas le même pied qui repousse. Donc, automatiquement, il faut qu'il cherche des graines et puis semer ça d'ici avril, soit directement en place dans un jardin ou dans une barquette pour en faire des plants et après la cultiver. Mais ça peut pousser très bien, oui. Après, ça fait de jolies fleurs et ça vient facilement.
Est-ce qu'on pourrait la cultiver en intérieur ?
Alors non. Au début, pour la faire pousser en jeune plante, oui. Pendant un mois, deux mois, les mois d'avril, mai. Mais après, il faudrait la mettre en extérieur. Elle viendra beaucoup plus odorante. Toutes les plantes aromatiques, s'ils sont tout le temps à l'intérieur, ne sont pas très odorantes. Il faut les mettre dehors, qu'elles aient le soleil, qu'elles aient les nuits, que ça soit un peu aride pour que les feuilles donnent, et les fleurs, pour certaines aromatiques, donnent leur pouvoir d'odorant pour qu'on puisse les consommer. Parce que dedans, ils vont être trop frais. Ce n'est pas une plante d'appartement.
Olivier, on arrive bientôt en fin d'émission. Notre petite question habituelle arrive. Qu'est-ce que vous conseillez à tous les gens qui aimeraient se mettre au jardin aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ?
Ouais, aujourd'hui, ce n'est pas une grande journée de jardinage. Mais par contre, ces périodes-ci sont très propices à la taille. Taille de fruitier, taille d'ornement. Mais beaucoup les tailles de fruitiers, c'est vraiment le travail de maintenant à faire, encore pendant un mois. Ceux qui ont un peu l'habitude, ils l'auront remarqué. Si vous regardez un cerisier, par exemple, on voit que les bourgeons ont déjà bien gonflé, bien rempli. Donc c'est vraiment l'air des cerisiers. Mais sinon, tout ce qui est pommier, prunier, on est dedans, on fait ça.
Merci Olivier Ribaud de nous avoir aidés en cette matinée de février. Les jardinières reviennent samedi prochain avec leur déguisement de carnaval, mais surtout pour jardiner.
Et on n'attend pas la pluie de confettis pour envoyer sa question. Vous pouvez le faire dès maintenant par SMS au 939 en tapant le mot jardin et un espace avant votre question ou par formulaire internet. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Merci à vous.
7h, 8h, les jardinières.